Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous rappelant ou en vous apprenant peut-être que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Alors maintenant, un peu partout elles bougent, les petites images, dans le tram, dans le bus, partout, on n'en peut plus. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'un compositeur argentin, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière de musicien de film à Hollywood, bien sûr, le dénommé Boris Claudio Schifrin, dit Lalo Schifrin pour son nom de scène, né le 21 juin 1932 à Buenos Aires, Argentine. Donc, et qui, à partir des années 70, eh bien, fit une carrière brillante, fructueuse, qu'on va esquisser aux États-Unis dans les films américains. Lalo Schifrin, eh bien, c'est le fils d'un violoniste professionnel. Il étudie le piano très jeune, aux côtés de celui qui sera le père du pianiste et chef d'orchestre, Daniel Barenboim. Bref, autant dire que Lalo Schifrin, contrairement à beaucoup de compositeurs de musique de film, a une solide formation classique qui, dans les années 50, l'amène même jusqu'à poursuivre sa formation au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il étudie entre autres, et excusez du peu, aux côtés d'Olivier Messiaen. Ensuite, eh bien, Schifrin devient pianiste de jazz, arrangeur. On le voit sur le label d'Eddie Barclay. On l'entend plutôt sur le label d'Eddie Barclay. On le voit aux côtés de, on l'entend plutôt aux côtés de son compatriote Gatto Barbieri, lui aussi grand musicien de jazz. Il est même embauché par le trompettiste Dizzy Gillespie dans son quintet. Bref, jusqu'au début des années 60, eh bien, Lalo Schifrin complète une carrière fructueuse et actif de musicien de jazz qui ne sera pas sans influencer le style de ses musiques de film. Et s'il compose sa première musique de film en 1958 pour un film dont j'ignore absolument tout, El Jefe, le chef de Fernando Ayala, c'est en 1964 qu'il commence avec une grosse production, un film de René Clément intitulé Les Félins, et dans les rôles principaux duquel on voyait rien moins que Jane Fonda et Alain Delon. Ma foi, pour un musicien de film, il y a des débuts plus obscurs. Eh bien, je vous propose d'écouter tout simplement un extrait de cette bande originale, Les Félins, Lalo Schifrin, dans 24 notes secondes. Déjà très reconnaissable de Lalo Schifrin pour un extrait de la bande originale des Félins de René Clément avec Jane Fonda qui trouvait là son premier rôle français. On lui avait décerné quelques mois avant qu'elle vienne tourner Les Félins le titre peu enviable de plus mauvaise actrice de l'année aux États-Unis. Ma foi, elle était venue se refaire une beauté si l'on veut, en France. Après Les Félins, elle tournera La Ronde sous la direction de Roger Vadim, qui deviendra plus tard son époux. Et on la verra notamment dans le cultissime Barbarella. Barbarella, bref, c'est des années 70, tout ça est bien loin de nous et on va y rester malgré tout, puisque Lalo Schifrin poursuit après Les Félins une carrière alors vraiment très très éclectique, puisqu'il est à la fois le compositeur du Kid de Cincinnati, de la musique du Kid de Cincinnati de Norman Jewison en 1965, de Tiens bon la rampe Jerry, avec Jerry Lewis bien sûr, de Gordon Douglas en 1966, ou de OSS contre Gestapo de Walter Grau en 1966 toujours, et on va plutôt écouter un extrait d'un solide thriller de Stuart Rosenberg tourné en 1967 avec Paul Newman et George Kennedy dans les rôles principaux. Cool and Luke, le titre français traduit, et bien c'est exactement pareil, Cool and Luke à l'envers, Luke la main froide, une histoire de prison. On sait que les Américains sont friands des histoires de prison. Des fois, ça devient un peu lassant, mais en l'espèce, il y avait Paul Newman. Alors que dire quand il y a un acteur aussi charismatique, qui d'ailleurs obtient une nomination à l'Oscar pour son rôle. Un extrait donc de cette bande originale, Stuart Rosenberg, Luc la main froide, dans 24 notes secondes. De la bande originale de Luc la main froide, un film de Stuart Rosenberg avec une musique donc de Lalo Schifrin, notre héros du jour, Paul Newman dans les rôles principaux, un film qui est réputé pour une scène culte où l'on voit le héros, en l'espèce Paul Newman, avaler à la suite d'un pari 50 œufs durs d'affilée. N'essayez pas, surtout n'essayez pas, 50 œufs durs d'affilée, et il y a une réplique, alors J'avoue que je ne m'en souviens plus, mais la réplique elle-même est tellement cultissime. Un gardien qui dit au prisonnier, incarné par Paul Newman, plutôt récalcitrant, le prisonnier, « Il y a des gens avec qui vous n'arrivez pas à communiquer. » Combien c'est vrai ? Combien c'est vrai ? Avec l'allochiffrine, eh bien, nous poursuivons. Alors, on va passer rapidement à musique pour un film cultissime de 1968. Alors, c'était effectivement la meilleure année pour sortir Bullitt, un film de Peter Yates, avec dans les rôles principaux Steve McQueen et Robert Vaughn. Mais si, Robert Vaughn, c'est un des agents très spéciaux. Il y avait aussi Jacqueline Bisset. Bon, moi, Jacqueline Bisset. Un film tourné dans les rues de San Francisco, une histoire policière d'un classicisme achevé, mais tourné dans les rues de San Francisco avec une poursuite en automobile. Alors moi, je ne m'intéresse pas aux automobiles, donc je ne saurais pas vous dire de quel type de véhicule il s'agit. Mais par contre, la scène, elle est devenue cultissime. Alors aujourd'hui, avec tous les effets spéciaux numériques, Fast and Furious 12, que sais-je encore, tout cela paraît bien ridicule. Et quand on la regarde, la scène est à la fois anodine et un chef-d'œuvre de montage, parce que c'est quand même ça qu'il faut retenir. Le réalisateur était anglais, peut-être que ceci explique cela. Peter Yates avait été engagé par Steve McQueen lui-même, mais le gars s'était méfié parce que Steve McQueen était réputé pour phagocyter, vampiriser ses réalisateurs. Il avait obtenu une pleine liberté de tournage. Ma foi, tout le monde s'y retrouva puisque Steve McQueen connut un grand succès et le film qui avait coûté 4 millions de dollars, ce qui est quand même conséquent, en rapportant plus de 20. La culbute de 5 fois, c'est quand même pas si mal. Et encore, là, je ne parle que des entrées en salle aux États-Unis. Bref, en tout cas, un film qui est resté fameux pour sa vision des rues de San Francisco et donc pour la poursuite qui avait été tournée à la fin du film, parce que des fois que jamais ça se passait mal, eh bien au moins on pouvait quand même sortir le film. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale, elle aussi devenue culte. Bullitt, Peter Yates, l'allochiffrine, 24 notes secondes, dans le désordre. We'll be right back. Ah ben là, c'est des cuivres puissants où je ne m'y connais pas. Un extrait de la bande originale culte d'un film qui ne l'est pas moins. Bullitt, un film de Peter Yates tourné en 1968 avec Steve McQueen dans le rôle de Frank Bullitt, un inspecteur de police qu'il en a, avec à ses côtés Robert Vaughn, Jacqueline Bisset, il y avait aussi ce cher Robert Duvall, bref, on s'étonne juste qu'ils n'aient pas fait de remake depuis, un remake tout pourri bien sûr, mais de ce film-là, parce que Bullitt c'est vraiment le symbole d'une certaine forme de cinéma policier américain rude et urbain des années 60. Et la musique de Lalo Schifrin, si jazzy d'inspiration, eh bien aussi c'est une incarnation musicale de cette vie urbaine et l'occasion pour le cinéaste, pour le compositeur, eh bien, de creuser un sillon qu'il creusera ensuite encore plus en étant une sorte d'accompagnateur fidèle d'une des parties de la filmographie de Clint Eastwood, puisque on verra Lalo Schifrin derrière les bandes originales. Alors, il y en a tellement que je ne peux pas toutes les citer, mais quand même, Des proies de Don Siegel, tourné en 1970. Avant ça, je l'ai oublié, Un shérif à New York de Coogan's Bluff de Don Siegel, toujours tourné en 1968, donc la même année que Bullitt. Et ensuite, évidemment, il y aura la bande originale de L'inspecteur Harry, Dirty Harry, en 1971, et celle de ses suites, notamment Magnum Force de Ted Post, tourné en 1973. Ce qu'on pourrait appeler la partie extrême droitière de la carrière de Clint Eastwood, dont je vous indique quand même s'il a dépassé les 90 ans maintenant, qu'il n'a jamais été très réputé pour ses idées progressistes, hein, soit dit en passant. En tout cas, bon, pour Lalo Schifrin, eh bien, c'était l'occasion de creuser ce sillon, mais, tout en faisant des incursions un peu improbables parfois, puisqu'on le vit notamment à la commande, à la baguette de l'adaptation d'un roman de D.H. Lawrence, Le Renard, tourné en 1968. Une histoire de lesbienne, un film de Mark Rydell. Alors à l'époque, je vous laisse imaginer le scandale. Et on le vit aussi, alors là c'est plutôt pour le cultissime nul, dans le rôle du compositeur de la bande originale de Che, un film de Richard Fleischer tourné en 1969, où, je vous le donne en mille, le rôle du Che était incarné par Omar Sharif, voilà, effectivement, Omar Sharif dans le rôle du Che. Déjà, il y avait un problème, mais parfois, on ne le voit pas. Et du coup, le film est devenu assez cultissime pour sa, comment dire, vision un peu américanisée de la vie du Che. On vit aussi Lalo Schifrin aux commandes de la musique de THX 1138. C'est quoi ça, THX 1138? Eh bien, c'est le premier film de George Lucas, un film de science-fiction tout à fait réussi, minimaliste par rapport, évidemment, au succès que connaîtra quelques années plus tard La Guerre des Étoiles. Voilà, c'était juste pour évoquer quelques aspects de la carrière prolifique de Lalo Schifrin. Quand on regarde, alors c'est vrai que les compositeurs de musique de film composent beaucoup, mais ma foi, Lalo Schifrin composait bon an mal an 5-6 musiques de film dans les années 70-80. Du coup, eh bien, on va en picorer une, non pas au hasard parce qu'on l'aime bien, mais le film, lui, est bien oublié. Un film de John Sturges tourné en 1976, alors, qui présente la particularité de s'appeler en anglais, pardonnez-moi, The Eagle Has Landed, et en français, L'Aigle s'est envolé, c'est-à-dire exactement le contraire. Peut-être, comme nous sommes dans les années 70, le gars qui a fait la traduction du titre, avant de se décider, il avait fumé ou bu quelque chose. Je ne sais pas trop, le film, c'était une histoire assez improbable, on voyait un commando nazi débarqué en Angleterre pour tuer Winston Churchill. Il n'y arrivait pas, je ne vous l'apprends pas, dans les rôles principaux, et notamment les rôles des nazis, en tout cas des Allemands. Il y avait Michael Caine, qui est aussi nazi que moi, je suis serbo-croate, mais ce n'est pas grave. Donald Sutherland, Robert Duvall, Donald Pleasance, et la délicieuse Jenny Agutter. Et il y avait même Larry Hagman. Mais si, Larry Hagman, c'est JR dans Dallas. Bref, un film tout à fait curieux de John Sturges, et une musique, vous allez pouvoir en juger, très différente de celle qu'on a entendue jusqu'à présent. Alors profitons-en, l'aigle il s'est soit envolé, soit il a atterri, mais le tout c'est dans 24 notes, seconde. Eh bien, vous avez pu le constater, un style très différent d'Obélite pour un extrait de L'Aigle s'est envolé, un film de John Sturges tourné en 1967 d'après un roman de Jack Higgins, l'histoire d'un commando allemand qui veut assassiner Winston Churchill. Effectivement, il l'assassine. Ah bah oui, mais sauf que c'est un sosie. Winston Churchill, lui, il est à Téhéran en train de préparer la guerre froide avec ses petits camarades américains et russes. Une curiosité, ma foi. Mais un film avec Michael Caine ne peut pas être foncièrement mauvais. Lalo Schifrin, eh bien ensuite, comme je l'ai déjà évoqué, poursuivra une carrière tout à fait éclectique et fructueuse. Alors, je picore juste parce que ça me fait plaisir de me rappeler des films que j'ai vus il y a déjà bien longtemps, parmi lesquels je me retiendrai le cultissime pour ceux qui aiment. Hein. Le chat qui vient de l'espace, The Cat from Outer Space de Norman Tokar, tourné en 1978. Une petite merveille, je vous dis que ça, le chat, comme il joue. Et on verra, alors dans un genre tout à fait différent, évidemment, le retour de l'inspecteur Harry, Sudden Impact de Clint Eastwood en 1983. Mais, on verra aussi l'inspecteur Harry, la dernière cible, le retour de la mort de l'inspecteur Harry. Bref, on en a vu beaucoup des films de l'inspecteur Harry avec un malaise, croissant, puisque le côté extrême droitiste que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il a été de plus en plus prononcé au fur et à mesure que les films étaient de plus en plus nuls. Et je m'en voudrais surtout de ne pas évoquer que Lalo Schifrin a aussi beaucoup écrit pour la télévision. Et pour la télévision, eh bien, il a composé quelques génériques qui sont restés fameux, notamment celui de Manix. Mais il y en a un qui, d'évidence, sera certainement joué, je ne sais pas, pendant très très longtemps. Et que quand on évoquera le nom de Lalo Schifrin, on pensera essentiellement à ça. Célèbre que le générique d'Amicalement Vôtre, un rythme aussi connu que celui du James Bond theme, évidemment, c'était Mission Impossible, le générique de la série télévisée diffusée à partir de 1966, une petite merveille énergique de jazz et de rythme qui depuis eh bien, n'a jamais cessé d'irriguer bon nombre de séries télé et ensuite après de films de cinéma. Tom Cruise, je l'appelle Tom, on est à son 5e opus, je crois, ou 6e, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, dans chacun de ces opus, on retrouve à un moment ou à un autre, quelque part, ce rythme musical. Il était évidemment impossible d'imaginer Mission Impossible sans la musique de Lalo Schifrin. Alors voilà, ce sera une belle façon de conclure. Et on va se quitter, une fois n'est pas coutume, avec notre générique signé du cher Henry Mancini, Diamant sur canapé, 1962. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.